France Inter.
L'invité au carré aujourd'hui,
Yann Tiersen, musicien.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Cette maison est la plus ancienne du village, ou tout au moins de ce que sur Ouessant on appelle un village, c'est-à-dire un hameau. J'aime aussi, en donnant son adresse, user du terme lieu-dit, puisqu'il n'y a pas sur Ouessant de nom de rue. Le pays ne s'est pas retranché dans son nom, ni l'histoire de la rue dans une plaque d'émail bleu. Tant de choses sur cette île sont préservées de la dénomination, de l'écrit et de l'inscrit, juste confiées à l'oralité, si bien qu'une parole seule, échangée sous la pluie, les perpétue dans les secrets. La maison se tient sur une sorte de petite butte et s'élève humble comme une cabane et solide comme un menhir. Son crépi blanc a depuis longtemps été moucheté de lichen et raturé de grisaille. Il est devenu cendre, nuage, poussière, orage et suie. Mais les fenêtres et la porte sont entourées d'un bleu estival invincible. Devant la maison, un quadrillage de murs bas isole des lopins dont on voit encore les sillons de pommes de terre violettes, mais où les orties, la bourrache, le fenouil sauvage, les fougères, les hortensias se battent avec les fusains et les roses pour brouiller les cartes cadastrale. Ce village du nord de l'île est composé de 7 maisons simples et fières qui se défendent contre le vent du large et se protègent des embruns qui s'envolent de la grève et saupoudrent de sel les bleus des encadrements et les blancs défraîchis des crèches. Chaque fois que je ferme la porte de cette maison et que le continent m'appelle vers ses vanités, je médite sur le retour. Ainsi, revenant au point de départ, je raccommoderai le temps comme s'il y avait deux vies séparées, celle de l'île et celle du continent, deux temps parallèles sans interruption. Et tous les habitants ici vivent cette étrange expérience. Partir, c'est se donner la possibilité de revenir, et c'est la seule raison de partir. Olivier Py, habité Ouessant, 2021. Bonjour Yann Tiersen.
Bonjour.
Est-ce que pour vous aussi la seule raison de partir de Ouessant, où vous habitez, c'est de vous donner la possibilité d'y revenir ?
J'ai pas l'impression de partir. J'emmène toujours la maison avec moi.
De quelle façon ?
Dans mon cœur. Ouais. Et voilà, pour moi, Ouessant, c'est une communauté, c'est ma vie, c'est l'école, c'est la réalité journalière, c'est l'escale où je travaille, où on fait des concerts. Et je peux pas vraiment partir. Et donc, et c'est aussi la mer. Et la mer, c'est pour moi, c'est enfin voilà, la mer, c'est la continuité liquide qui lie toutes les terres du monde.
Donc, c'est pas une frontière. Hein.
Oh non. Justement. C'est quand on navigue, c'est ça. C'est on se rend compte de l'absurdité de la frontière. Que c'est complètement irréel et absurde.
Il n'y a pas deux temps parallèles donc, entre l'île et le continent pour vous ?
Non, puisque l'île, elle est liée au continent, enfin, elle est reliée par la mer, que l'île, c'est aussi un laboratoire, c'est un territoire aussi de enfin, c'est une communauté, c'est du bon sens, c'est vivre ensemble. C'est travailler ensemble et c'est s'écouter, dialoguer, débattre dans un monde où plus ça va, plus on est. Il y a de la propagande partout et où c'est difficile de débattre et où on est. on s'enferme dans nos bulles.
Donc il y a encore des espaces de rencontre à Ouessant, par exemple ?
Oui, je pense que. Bien sûr. Et il y a les rencontres, enfin ouais, les événements, les moments où on se voit et puis toutes les choses qui font la société, les métiers, enfin il y a une proximité, c'est une chance énorme et je trouve que c'est pas quelque chose en voie de disparition, ce serait plutôt un laboratoire pour que l'avenir ressemble à Ouessant et que le continent Parce que voilà, c'est comme on n'est pas nombreux,
et combien, bon, combien, tous les combien jours, d'habitants à Ouessant ?
800 l'hiver.
800, ouais. Et l'été, évidemment, l'été qui s'allonge de plus en plus, mais De plus en plus de monde aussi sur l'île aujourd'hui ?
Oui, après le tourisme qui change, avec les grandes différences, les gens qui ont de plus en plus d'argent, les autres qui en ont de moins en moins, le bateau qui est de plus en plus cher, donc un tourisme qui... des gens qui sont de plus en plus riches, donc qui sont souvent de plus en plus cons.
Ah bon, ça va avec pour vous ?
Oui, un peu quand même. Enfin, ça peut en tout cas. Non, bien sûr, ça va pas forcément... Enfin, après, le confort, c'est jamais très... C'est pas synonyme d'ouverture et de... Donc on s'enferme un peu, hein, quand on a trop de confort.
Enfin, on peut être riche et pas con quand même, non ?
Oui, oui, mais alors notre époque en ce moment nous apprend vraiment pas ça. Hein. Et puis on est de plus en plus riche, et quand on est extrêmement riche, bah, c'est déjà de prioriser tant d'argent.
Ouais.
C'est pas une preuve d'intelligence déjà.
Bon, Amélie Poulain vous a rendu riche quand même, Yann Tiersen.
Oui, mais c'est un moyen. Et puis alors, si c'était à refaire,
Oui, quoi ? Si c'était à refaire, vous pouvez finir votre phrase, parce que la suite m'intéresse.
Non, je suis mal à l'aise, moi. Enfin, on va pas parler d'Amélie Poulain.
Non, mais le si c'était à refaire est intéressant, quand même.
Je sais pas si c'est quelque chose qui a apporté beaucoup de positif. Alors si, il y a plein de choses. Justement, bah, peut-être l'aspect financier m'a permis d'avoir de l'argent pour créer des projets, pour acheter l'Escale, pour en faire un studio.
L'Escale, c'est l'ancienne discothèque de Ouessant.
De Ouessant,
qui vous sert maintenant de studio d'enregistrement, qui est vraiment dans Ouessant, dans le village. Hein.
Oui. Et évidemment de pouvoir faire des tournées à la voile aussi. Donc voilà. Et d'essayer d'inventer d'autres choses ou d'être un peu en dehors du système. Donc oui, le confort financier, c'est bien sûr. J'ai énormément de chance et j'en suis extrêmement conscient.
Et ça vous a pas rendu con ?
Je sais pas, peut-être.
Vous êtes de Brest, Yann Tiersen, donc en face,
hein, oui.
De l'autre côté, sur le continent. Ouessant, c'est arrivé quand, en fait, dans votre histoire, vous, exactement ?
Moi, Ouessant, c'est plutôt des choses assez personnelles. C'est que mon papa est mort quand j'étais assez jeune, et j'ai cristallisé tous mes souvenirs de souvenirs liés à Brest et à Ouessant, où j'ai des images comme ça.
Ils vous emmenaient souvent là-bas ?
Oui, enfin c'est ce que je m'en rappelle. Après adolescent, j'ai recherché ça. Je suis allé à Ouessant, j'ai fait mon troisième album là-bas.
Le phare.
En louant une maison.
Ouais.
Après j'ai refait les retrouvailles où là j'ai rencontré des amis et j'ai posé mes valises.
Ouais. On va écouter d'ailleurs un extrait du phare. C'est monochrome avec la voix de Dominique A. Enregistré donc cet album à Ouessant. À l'époque d'ailleurs, en 97, il n'y avait pas de studio d'enregistrement. Il a été fait où cet album ?
Ah, j'avais emmené tout mon matériel avec moi. J'ai toujours travaillé un peu en home studio, enfin, avant d'avoir la chance et les moyens d'avoir un vrai studio. J'ai toujours été assez indépendant au niveau enregistrement, donc j'étais venu avec des magnétos et tout ça.
Ouais.
Et après, les voix, les batteries, on les a fait ailleurs, mais l'album s'est construit là-bas.
Il a quelle place d'ailleurs dans votre discographie pour vous, cet album Le Phare, troisième album donc, pour album de l'envol aussi quand même ?
Ouais, il est hyper important parce que c'est la première fois que j'ai eu un album qui a eu du succès. Je me souviens très bien de la tournée où j'ai commencé à tourner devant des salles vides. Et l'album est sorti et les salles se sont remplies.
Ouais.
Et c'était incroyable. Et le premier concert où j'ai vécu ça, je crois que c'était à Cherbourg ou au Havre, je ne me rappelle plus. Mais j'ai vraiment cette image d'une salle pleine, mais je ne savais pas ce que c'était.
Ouais.
En général, je débutais, donc mes deux premiers albums, c'était plus confidentiel.
Qu'est-ce qu'on éprouve quand on voit pour la première fois vraiment les salles se remplir, quand on sent le public là vibrer avec vous en nombre ?
Du bonheur, j'étais content.
C'est un truc qu'on n'oublie pas.
Ah non.
Ouais. Troisième album donc, Le Phare, vous qui êtes donc né à Brest, qui avez grandi à Rennes, dans laquelle ces deux ambiances musicales et humaines se sont bien côtoyées en fait, entre les deux villes. Vous aviez...
Rennes, c'est mon adolescence, c'est les transmusicales, et c'est tous les concerts que j'ai vus. Après, Brest, c'est une ville que j'aime profondément, et je trouve que c'est une ville fascinante. Qui est une espèce de... Enfin, c'est une ville ouvrière, c'est une ville qui vit, qui reste authentique, qui est pleine de surprises. Je trouve qu'on s'ennuie jamais à Brest. Je compare Brest toujours un peu à Berlin. Alors, tout le monde rigole, mais je trouve, je trouve qu'il y a plein d'endroits comme ça. Si on ne connaît pas, on ne sait pas. Et puis on rentre, et puis c'est plein de vie. Il se passe toujours un truc, tous les jours de la semaine.
Et votre rapport à la langue bretonne, alors, c'est aussi quelque chose de très important. Vous dites que c'est un mode d'emploi de l'environnement.
Oui, alors c'est ma femme, Émilie Quinquis, qui est une belle histoire par rapport aux Bretons, et moi je l'ai suivie, qui avait sa grand-mère qui, sur la fin de sa vie, avait Alzheimer, et du coup ne parlait plus que breton, et elle a voulu réapprendre le breton grâce à cause de ça. Et moi je l'ai suivie, c'était toujours une chose que je voulais faire, apprendre cette langue.
On la parlait pas dans votre famille au départ.
Des grands-parents, des arrière-grands-parents que j'ai pas connus. Mais du côté de mon père, j'ai une famille qui vient de Belgique. Mmh. C'est du côté de ma mère que ma famille est bretonne, mais du côté de mon père, c'est des lointaines origines norvégiennes qui sont descendues en Belgique. Voilà, et donc du coup, après avoir fait cette formation d'un an en breton, ce qui m'a frappé, c'était justement que l'environnement s'ouvrait. Je comprenais les lieux, je comprenais la signification des endroits, des amers aussi, le nom des rochers, ça m'a fait prendre conscience de l'importance des langues minoritaires dans le sens de partie intégrante de l'écosystème, comme je disais, comme un mode d'emploi de l'environnement.
Ouais.
Et je pense qu'on a la chance d'avoir des langues internationales où on peut communiquer avec tout le monde, que ce soit l'espagnol, l'arabe, l'anglais. Et y a ces langues qu'on a tous côtoyées et qui sont... pour moi, une prise de conscience de l'environnement et pas du tout une espèce de retour en arrière ou un truc de traditionnel. C'est plutôt tourné vers l'avenir. C'est dans le sens de préserver le savoir et les racines, mais dans le sens les racines qui font pousser, hein, pas les racines qui
font régresser.
Qui font régresser.
Il faut aller dans le sens inverse.
Ouais.
Et à Ouessant, on parle breton beaucoup ou pas d'ailleurs ?
Non, pas beaucoup. On a parlé. Il y a un breton de Ouessant hein, qui est. Et après. Après, non. Il y a plein de gens qui parlent breton. Il y a aussi beaucoup de la nouvelle génération qui apprend le breton.
Ouais.
C'est une langue assez dynamique.
Au collège d'Ouessant, par exemple, on enseigne le breton ou pas ?
Non. À l'école, au collège. Non, mais après il y a plein de jeunes qui ont fait des formations. Puis c'est marrant parce que le breton revient par la jeunesse en ce moment. Et c'est assez chouette de voir ça, par l'activisme aussi.
Ouais.
Et c'est bien. Une langue, elle est faite pour être vivante.
Yann Tiersen, vous avez réalisé deux tournées à la voile au rythme du vent et démarré. C'est un autre rapport à la scène que vous avez imaginé. On va en parler dans un instant puisque vous êtes notre invité au carré.
France Inter. La Terre au carré.
Les oiseaux que vous entendez, ce sont des oiseaux que vous avez enregistrés, Yann Tiersen, au Svalbard, en mai 2025, donc juste avant l'été. À l'occasion d'une nouvelle tournée à la voile, racontez-nous comment cette idée est née au départ.
Alors l'idée, le Svalbard, donc c'est au nord de la Norvège, et c'est l'endroit sur Terre où le changement climatique est le plus rapide. Donc il y avait cette envie de se confronter à la réalité et d'y aller à la voile. Parce que justement, pas se parachuter là-bas, mais de prendre le temps de monter tout au nord et de prendre, d'être dans cet élément-là, de sentir ce qui se passe, de faire de la musique là-bas, de faire aussi des concerts. Et surtout, il y a beaucoup de scientifiques, d'essayer d'interviewer des scientifiques sans biais, sans leur parler du changement climatique. Je suis très mauvais intervieweur, de toute façon. Donc, l'idée, c'était plus de leur dire, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre domaine de recherche, ouais. Et de voir ce qui se passe. Et du coup, avec ça, d'avoir de la matière pour faire un espèce... Alors, je mets 10 000 guillemets, parce que je n'ai pas la prétention de faire ça, mais d'essayer de faire un espèce de journalisme musical, ouais. Après, avec cette matière, et de voir ce qui se passe. Alors, c'était assez incroyable, parce que... J'ai rencontré des scientifiques de complètement différents. Ça allait du norvégien hyper spécialiste très sérieux,
ouais.
De l'étudiante qui étudiait aux États-Unis, d'un néerlandais qui étudiait les oies. Et en fait, quasi tous les scientifiques que j'ai interviewés au milieu de la discussion. Ils sont fondus en larmes. Certains ont fondu en larmes, certains avaient un chat dans la gorge. Et c'était incroyable de voir ça. Parce que c'était vraiment, justement, par rapport à la destruction de la planète, par rapport aux espèces qui meurent, par rapport à leur champ d'expertise, et de voir que tout se casse la gueule. De voir l'absurdité, par exemple, au Svalbard, nous, on était assez tôt, et on était assez haut, donc à des moments, on était le seul voilier là-bas. Et il y avait des gros bateaux de croisière avec des touristes. À Nialesund, cette station scientifique, où il n'y avait que des scientifiques, trois fois par jour. Et là, on était tout seul dans le port. À un moment, on se retrouvait face à un building et il y avait 300 touristes qui venaient avec leur ciré Eli Hansen floqué expédition arctique. Et en sachant que ça finançait la recherche. Qui justement documentait le mal et la pollution de ces bateaux de croisière. Donc c'est l'absurdité et voilà, et c'est de voir ces gens fondre en larmes et être émus par le dommage, par ce que j'appelle la colonisation, hein, la colonisation des cultures, la colonisation de la nature. Pour le profit, et qui mène à la destruction. Et là, on le voit, les glaciers se retirent de 500 à 700 mètres par an. C'est vertigineux.
C'est l'accélération, évidemment, dans cette région du monde qui est vraiment un des témoins les plus vifs, hein, effectivement, du réchauffement climatique. Vous qui avez, Yann Tiersen, rencontré donc des scientifiques au Svalbard, on va écouter Roman Tessenrec. Il est enseignant-chercheur à Toulouse, au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement, donc il bosse aussi au Svalbard. Voilà l'histoire qu'il vous a racontée, et ça commence avec un chant d'oiseau.
Je vais vous faire écouter un son. Donc c'est un chant d'oiseau, donc c'est le ho-ho de Kauai, donc c'est une espèce d'Hawaï. Et ça a été enregistré par un scientifique. En fait, c'est quand il a enregistré le chant du dernier mâle de l'espèce. C'est-à-dire, c'est en 83, donc ce son-là, naturellement, vous ne l'entendrez plus jamais, parce que l'espèce s'est éteinte. Et en fait, il attend la réponse d'une femelle qui ne viendra jamais, puisqu'il est seul sur la planète. Et pour moi, ça... Ben, c'est plus frappant que de dire il va faire plus 4 degrés en 2050. Quoi.
Roman Tessenrec, hein. Donc vous avez, entre guillemets, interviewé Yann Tiersen au Svalbard.
Oui, justement, on a eu une grande discussion, enfin Roman qui disait qu'il a passé son temps justement à se tirer la sonnette d'alarme et que personne n'écoute. Et que là, justement, tout son domaine de... Il disait qu'il faut créer de l'émotion. Et justement, voilà, ça, c'est un exemple flagrant, parce que ça nous touche. Et que... parce qu'effectivement, les chiffres... Enfin, personne ne les écoute, déjà. Et personne, les scientifiques, ils sont épuisés de ne pas être liés, d'avoir cette propagande. Là, on est dans la post-vérité, donc personne n'en a rien à foutre de la vérité, de ce qui se passe, en fait. Tout le monde et c'est épuisant. Et la réaction à ça, c'est de se dire peut-être qu'encore on peut créer de l'émotion pour qu'il y ait une prise de conscience ou qu'on essaye de participer à la prise de conscience.
C'est quoi votre rapport, vous, à l'émotion, justement, en tant que musicien? Parce que c'est un... C'est une idée que vous avez critiquée aussi.
L'émotion ?
Ouais. Le fait de pouvoir comme ça rendre un public, agir sur un public par le biais de l'émotion.
Ah bah oui, si on s'en sert comme outil de manipulation, c'est un double tranchant. Après, la musique, c'est justement pas un langage, et c'est l'émotion qui sort en musique. Après, justement, c'est faire attention. Moi, ce qui m'intéressait, j'aimerais faire avec ce que j'ai collecté là-bas, c'est justement avoir un côté soit assez froid musical et de l'émotion qui passe par la parole. Et forcément pas l'illustrer, parce que là, ce serait pas élégant. Ou l'inverse, avoir une émotion et un compte-rendu scientifique assez froid pour justement créer l'émotion, mais sans manipuler les gens, évidemment.
Et il y a l'idée, donc, il y a une certaine, de documenter aussi cette tournée en voilier. C'était la deuxième que vous faisiez. Il y a eu donc les îles Féroé en 2023, et donc là, le Svalbard en 2025, avec aussi cette idée sur place, parce que vous avez emporté un peu d'instruments, de matériel sur le voilier.
Oui, beaucoup. Ouais. De toute façon, ouais. Je faisais une tournée aussi normale. Après le Svalbard, je descendais la Norvège.
Ouais.
Avec l'idée aussi, c'est de faire des concerts gratuits, de faire des concerts improvisés, parce que moi, tout mon combat, enfin voilà, je pense que on est immergé dans un ultra-libéralisme et dans un capitalisme qui détruit la planète, qui l'a détruit depuis tout le temps. Et en fait, ce système, pour moi, il nous mène dans le mur. Et donc, c'est de...
Et moi, le modèle des grandes tournées, justement, ça incarne cette idée-là aussi ?
Moi, je me suis rendu compte dans les grandes tournées qu'en fait, on vit de plus en plus dans un monde de services et de prestataires. Prestataires qui sont là pour le profit. Et qu'à un moment, dans une salle, on va arriver dans une salle. Alors, en France, on a encore la chance. Pour l'instant, ça ne va pas durer, peut-être. J'espère que ça durera. On a encore un service public, on a encore des subventions. Mais dans les autres pays, en fait, on va arriver dans une salle qui va être louée comme on louerait un Airbnb par un promoteur qui a gardé un catalogue d'artistes. Après, il va y avoir le prestataire du bar, le prestataire du catering, le prestataire du son, le prestataire... Et personne communique. Alors, il y a des humains. Tous, ils sont humains. Tous, c'est des travailleurs. Tous, on peut communiquer avec. Mais des fois, on les voit même pas. Et le problème... c'est que ça va jusque... Là, l'autre fois, justement, j'ai passé les douanes. Il y a des prestataires qui vont fouiller le van. Il n'y a plus de... Voilà, tout devient privé. Et le but du privé, c'est de gagner de l'argent. Donc, en fait, tout ça, c'est tout est biaisé par l'argent. Et voilà,
Et vous en avez eu ras-le-bol d'alimenter ça ?
D'alimenter ça, c'est que moi c'est pas ça, je fais pas de la musique pour ça, alors on parlait c'est vraiment
vous,
pas mon but,
vous étiez
c'est
dans partager. Système forcément.
Bah oui, donc c'est de partager, moi c'est de me retrouver, de pouvoir partager avec le public, parce que des fois les salles par exemple même pas rencontrer le public parce qu'ils sont foutus dehors. Donc c'est de partager avec les gens, de partager avec les... Et du coup comment faire ? Et ben faire des concerts, et peut-être justement faire des concerts gratuits, parce que là bon bah s'il y a plus d'argent en jeu... Mais après, c'est compliqué aussi, parce que des fois, faire des concerts gratuits, bah alors si on fait des concerts payants à côté, les mecs, ils vont râler, parce qu'ils diront, ah bah attends...
Oui, puis il faut se le permettre pour les artistes aussi,
voilà,
de faire des concerts gratuits. Voilà,
d'où l'intérêt
d'avoir un peu d'argent.
Ouais. Exactement. Mais c'est fascinant. Et ce qui est fascinant aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais l'importance qu'on donne à l'argent. Parce que moi, je me rends compte aussi que dans certains... Alors ça, c'est autre chose, mais dans certains concerts que je fais, si les concerts sont gratuits, bah, par exemple, on va être moins bien accueillis. Et c'est inconscient, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de malveillance là. Non. Mais si j'ai un concert où je suis payé un peu, la tournée en Norvège, c'était vraiment des petits concerts, je suis payé un peu, bah, je vais avoir des bières et un catering, enfin un petit truc, manger. Si c'est gratuit, ben non. Et pourtant, l'accueil, il va être génial. Et c'est inconscient. Mm. C'est que c'est pas du tout de la malveillance, comme je dis. C'est juste, on se rend pas compte comme quoi c'est devenu une valeur et qui est la valeur centrale de dans l'inconscient. Collectif.
On va aller au Texas Bar, Yann Tiersen, c'était au Svalbard donc, en mai dernier, donc comme son nom l'indique, le bar le Texas Bar, c'est ça ? C'est un petit lieu où vous avez joué ?
Non, le Texas Bar,
c'est quoi,
c'est un refuge qui est connu au Svalbard, enfin, où justement on arrive en bateau, et alors dans ce refuge, ça s'appelle le Texas Bar, parce que chacun amène une bouteille.
Ouais. Donc, ah oui, il n'y a pas de bar en fait.
Non, bah, y a un bar du coup,
il
parce qu'il y a du gin, de l'aquavite, de plein de choses. Et chaque navigateur, enfin chaque bateau qui fait escale au Texas Bar amène sa bouteille et du coup, Voilà.
Et donc vous avez joué
et
là-bas.
Donc on a joué là-bas et on a fait. J'ai improvisé oui, devant cet endroit. Ouais. Il y avait au milieu de nulle part.
Il y avait combien de personnes dans le public
hein. Il y a personne. Là, oui. Il y avait personne.
Il y avait personne.
Il y a personne. Il y a les oiseaux au nord du Svalbard. Il y a ouais. Le dernier village habité de la Terre au nord, c'est Njalesund, justement la station scientifique dont on parlait. Donc après, il y a des refuges, il y a des scientifiques en expédition, mais voilà.
Et alors, quand il n'y a personne, vous jouez quand même.
Bah oui, c'était l'idée, c'était justement de s'immerger dans cette nature qui est incroyable. Et ouais.
Là, quand on entend ça, il faut imaginer quoi comme image alors pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Là, on est donc au Svalbard, plein nord.
Il y a une petite cabane en bois, donc avec plein d'alcool à l'intérieur. Et il y a moi qui joue, Colin qui me filme, et Anna et Lucie qui sont là à faire le guet avec un fusil parce que il y a
les
des ours. Et devant il y a des montagnes, plus loin il y a un glacier et il y a Ninoc qui mouille au bas de tout ça.
Ouais.
Et il neige un peu.
Et on le verra d'ailleurs sur des images, puisque vous avez beaucoup tourné. Et d'ailleurs, les Wessantins verront ces images, c'est ça, le 18 octobre prochain ?
Ah non, c'est demain, ça.
Ah,
demain,
c'est demain ?
On fait une projection des images, qu'on fait un petit peu notre soirée diapo.
À quel endroit ?
À l'Escale.
À l'Escale, donc, à Wessant.
Ouais, et le samedi d'après, c'est mon premier concert. Je pars en tournée, et c'est le premier concert à l'Escale aussi, à Wessant.
Donc c'est en deux phases, hein, pour ceux qui passent par Wessant. Donc demain et le 18. Yann Tiersen, en avril dernier, vous avez sorti un album, on va dire en deux phases, Rattling from a Distance et The Liquid Hour. Il y a deux temps, justement, deux contrastes, finalement, deux visages dans cet album. Qu'est-ce que vous voulez raconter ? Alors, parce que là, on est encore sur le terrain, finalement, du militantisme aussi, d'une certaine manière.
Oui, alors, il y a un album de piano. En fait, cette idée d'album, elle est née de la tournée précédente qu'on avait fait à la voile avec Quinquis et qu'on avait fait dans les pays en Irlande et qu'on est démonté jusqu'au Féroé. Et j'ai joué à Cork dans une église. Et le promoteur local, qui est quelqu'un de génial, normalement, moi, j'avais divisé ma tournée, soit je jouais du piano, soit je faisais un concert plutôt électro. Et en fait, il m'a dit, à l'église, j'avais prévu de jouer du piano. Il me dit, ah non, moi, je veux les deux. Je dis, ah bon ? Ah super, bon. Et du coup, j'ai fait les deux et ça marchait vraiment bien. Il y avait un espèce de contraste énorme entre les deux, mais qui, du coup, rendait tout très simple et très évident.
Donc une partie plus contemplative.
Ouais, au piano, et puis la partie électro. Voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, mon prochain album, je vais faire un double album, et il y aura une partie où je vais faire que du piano. Je vais même pas avoir de field recording comme je faisais avant. Mm-hmm. Ça va être que du piano, vraiment, vraiment juste enregistré, et je vais travailler justement les morceaux. Et la deuxième partie, ça va être plus électro. Et voilà, donc il y a ce premier album qui est très contemplatif, mais qui est aussi une réflexion sur être en mer, et comme en mer on n'a pas de pression sociale, et c'est une réflexion sur l'identité de quand on est là en quart au milieu de la nuit, on est seul face à la mer et on est seul face à soi-même, donc on réfléchit sur qui on est, et donc cet album c'est vraiment là-dessus une espèce d'introspection et de méditation pour se créer, pour voir qui on est. Et le deuxième album...
The Liquid Hour, donc le deuxième.
Enfin, deuxième album. La deuxième partie de l'album, pardon. Ouais. Parce que c'est un seul album. Alors là, c'est construit pendant les élections européennes et les législatives qu'on suivit. C'est un album, du coup, comme il était électronique, je n'avais pas de micro et je passais mon temps à écouter des podcasts. J'avais Blast qui passait, j'écoutais. Et voilà, c'est un album de révolte, mais qui est vraiment infusé avec l'actualité et la réaction comment réagir face au fascisme et comment face à la propagande voilà, parce que les médias sont rachetés, comment faire face à ça et la révolte, l'énergie, et c'est un album assez jubilatoire en fait. Et puis j'étais aussi à Wesson, il y avait plein de manifs.
À Wesson ?
Non, justement. À Wesson, oui, il y en avait, bien sûr.
Ouais.
Mais j'étais à Wesson dans mon studio en train de travailler, j'avais envie d'être avec la foule, et du coup, c'était ça aussi. Et du coup, j'avais cette idée de faire une espèce de fanfare, mais avec un instrument électronique. Qui s'appelle l'ondioline, pardon, je parle beaucoup.
Et c'est bien l'invité qui parle.
L'ondioline qui est un instrument des années 30, et pour moi, ça évoquait la fanfare. Et moi, la fanfare, ça évoque pour moi les mouvements révolutionnaires et les révoltes passé. Et du coup, aussi, peut-être un espoir pour les révoltes futures. Et j'avais envie d'avoir cette fanfare. Et donc, il y a un côté comme ça très...
Vous dites que c'est la bande-son de notre soulèvement.
J'aimerais.
Hein, une bande-son à mettre dans son casque en allant manifester, par exemple. Ou quand on ne peut pas, parce qu'on est à Ouessant-l'Escale,
voilà,
avoir l'impression
d'y être. Quand je ne pouvais pas manifester comme j'aurais voulu, j'ai fait ça.
Yann Tiersen, le dernier titre d'ailleurs de cette deuxième partie, c'est un titre qui s'appelle « Dolores ». À qui fait-il référence? On va l'écouter dans un instant, juste pour situer qui est Dolores.
C'est Dolores Ibaruri, et alors c'est un titre qui est né d'un poste. C'est qu'à un moment, j'ai fait
c'est
un poste avec...
C'est une politicienne espagnole. Hein.
Ben oui, j'ai fait un poste avec No Pasarán, et la photo de Dolores Ibaruri. Et en fait, j'ai réécouté son discours, et j'ai pris un extrait où elle appelle les femmes à prendre les armes et à se révolter. Et je trouvais ça, donc c'est l'icône de l'antifascisme, et je trouvais ça beau, justement, cette révolte, et de demander aux femmes de sortir.
Eh bien, on va l'écouter tout de suite, Dolores, dernier titre donc de ce dernier album de Liquid Hour. Dolores, titre donc de cet album The Liquid Hour, deuxième partie donc de votre dernier album sorti en avril dernier, Yann Tiersen. On peut peut-être citer celle qui a travaillé également sur ce titre.
Oui, Kankis, c'est une collaboration avec Kankis, mais où elle a écrit tous les textes qui sont en breton. Quand il y a des textes chantés, elle chante. Et donc, voilà.
Vous parliez de la place des femmes justement et de la révolte des femmes face à la dictature. Ouessant aussi, le rôle des femmes a été très important dans l'histoire de l'île.
Oui, on a la chance de vivre dans un endroit où il y a un matriarcat ouessantin qui est
assez unique en son genre, quand même.
Jubilatoire.
Hein. Et ça reste encore ? C'est encore le cas selon vous ou pas ?
Oh, ouais, un peu quand même.
C'est vrai.
Ouais.
Pourquoi il y a eu un matriarcat justement à Ouessant ? Il faut comprendre l'histoire.
C'est une île de marin de commerce, donc les hommes étaient. Et puis voilà, puis c'est les Ouessantines du caractère. s'est occupé de l'île pendant plein des décennies et des décennies. Donc, ouais.
Donc c'est resté un peu quand même dans...
Oui, c'est bien.
Dans l'esprit d'Ouessant. On évoquait avant la pause votre tournée à la voile. Après cette aventure en mer, il y a eu aussi une aventure à vélo. Hein. Vous aviez fait une tournée aussi à vélo en Bretagne. Hein. Vous aviez fait 1000 km.
Oui, quand j'ai sorti un album qui s'appelait Infinity, on avait tracé le signe de l'infini sur la Bretagne.
Ouais. Et donc, des coups de pédale pour aller chez les disquaires indépendants, en fait, c'était ça. Et faire aussi des concerts, hein, même chose.
Oui.
C'était le même esprit.
Ouais.
Donc après le vélo, après la voile, quelle forme de tournée dont vous pourriez rêver aujourd'hui, Yann Tiersen ?
Alors, des tournées à pied.
Ouais.
Non, mais en fait, j'aimerais bien tout mélanger. Et j'ai fait aussi des tournées en van avec ma chienne, justement pour essayer de titiller le système capitaliste là dont je parlais, des salles anonymes et tout ça, où je ne demandais pas de catering, enfin donc pas de repas, pas de rien dans les loges. Et je disais juste, vous m'accueillez, je veux juste un coin de jardin. Et pour recréer le lien, justement, pour essayer de... Et alors, c'était très long, parce que je conduisais, j'étais tout seul, je faisais tout, et puis j'avais ma chienne avec 40 kilos de croquettes. et du coup, c'était incroyable, parce que ça a été des rencontres super belles, donc ça a marché. Des fois, pas du tout. Des fois, c'était impossible. Impossible.
Pourquoi ?
Parce que le système était tellement là, et il y avait tellement de prestataires, comme je disais, qu'à un moment, c'était impossible de contourner ça. Ça faisait chier tout le monde. Ça a été pris limite comme un caprice d'artiste, en fait. Alors que, évidemment, c'était pas l'idée. Et je me suis retrouvé, j'avais nulle part où dormir. Je devais faire 100 km pour aller chez un copain que je connaissais dans le coin. Et voilà, c'était très... Ça m'a appris beaucoup de choses aussi. J'ai été un peu déprimé à un moment, parce que moi j'étais là, la fleur au fusil, allez, on s'aime tous, on va tous partager un chouette moment. Et puis des fois, c'était pas possible. Et je me dis, en fait c'est vrai. Voilà, on en est là. Mais après c'est aussi du fuel, enfin des façons de parler. C'est du vent dans les voiles.
Oui, pour une tournée écolo, oui, c'est pas le bon terme.
Pour justement se dire comme c'est important d'être positif, de recréer ce lien, de militer et d'aller de l'avant.
Ouais. Est-ce qu'il y a une prise de conscience chez les musiciens en ce moment sur ces questions-là ? Est-ce que vos potes Miossec, Dominique A, sont dans la même lignée finalement sur cette sorte d'engagement ?
Oui, sans doute. Après, moi, je ne fréquente pas que des musiciens. Je trouve qu'il y a une énorme prise de conscience dans la nouvelle génération.
Sur d'autres façons de faire de la musique, d'autres façons d'aller en tournée.
La musique, il n'y a pas que la musique dans la vie, de militer, enfin surtout d'agir. Et moi, je trouve qu'on vit une époque magnifique parce que justement il y a une espèce d'explosion des genres et où tout le monde, il y a plus de d'école comme ça ou de chapelle.
Les gens se mélangent plus.
Ouais, la musique est hyper libre. Pour ça, j'aime beaucoup l'hyperpop. À cause de ça, c'est que ça peut être très commercial, mais à la fois très très pointu. Je trouve que c'est une chance énorme. Et on a cette ouverture là, je pense, des nouvelles générations qui est salvatrice et qui va changer le monde.
Donc là, vous repartez en tournée, mais c'est une tournée, on va dire, classique pour le coup.
Là, oui, c'est une tournée européenne où je fais des grosses salles.
Ouais. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas totalement renoncé à ça non plus ?
J'essaie d'aménager, j'ai pas renoncé à. Il faut bien que je puisse faire des tournées à la voile. Il faut pouvoir les financer, il faut pouvoir. Voilà, il y a toutes les. Et je fais une tournée européenne plutôt réduite. Sans faire des choses absurdes, ce qui était quand même la norme dans les tournées, hein, de faire, je sais pas, de jouer au Portugal et de jouer à Londres le lendemain, j'exagère, mais en France, et donc ça, non, donc d'avoir un vrai trajet cohérent. Justement, remettre le voyage et le trajet à la base de tout, et pas jouer là parce que la salle est libre, en fait. Non.
Et cette tournée, elle va commencer, donc c'est à Berne, c'est ça vos
premiers... À Ouessant.
À Ouessant d'abord, évidemment, le 18. Et puis ensuite,
après Berne.
Après Berne. Et puis pour la France, il y aura le 104 à Paris, le 30 octobre, Vendôme le lendemain, Lyon le 8 novembre, Biarritz Saint-Médard-en-Jaille et Nantes au lieu unique le 16 novembre pour votre prochaine tournée. Et puis le dernier album s'appelle Rattling from a Distance and the Liquid Hour. Merci beaucoup Yann Tiersen d'être venu aujourd'hui au micro de la Terre au Carré et bonne tournée alors.
Merci.
À bientôt.